de sauver nos âmes, mais d'être capable d'enclencher une mobilisation.
Merci. La parole est maintenant à Pascal Mansu.
Est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça simplement, parce que ce sera plus simple pour moi d'avoir les mes deux mains. Les deux intervenants qui m'ont précédé ont surtout insisté sur des informations de caractère scientifique, etc. Je ne suis personnellement pas économiste, mais membre du CPN. Je n'ai pas prétention ici à détailler les phénomènes, les mécanismes techniques qui ont mené à la situation. Ce que je voudrais plutôt discuter, c'est de leurs impacts politiques et de la façon dont les militants de lutte de classe doivent aborder ces questions, selon mon opinion. Je précise que l'opinion que je défends est bien évidemment une opinion discutable. C'est une introduction à un débat qui aura lieu dans le NPA. Ça n'est pas une vérité révélée et je ne voudrais pas qu'elle soit prise comme ça. Bien. Alors, camarades, la première chose quand même à dire, une fois qu'on a eu ces éléments-là, c'est que vous le savez, vous l'avez lu, on l'a répété à foison, cette crise est la crise, la pire crise du système capitaliste depuis les années 30. Il faut prendre la mesure de ce que signifie cette affirmation. Je vous rappelle que la crise des années 30 s'est résolue fondamentalement dans la guerre mondiale. Alors, il ne s'agit pas pour moi de faire une affirmation outrancière du style « nous allons vers la guerre ». Mais je pense qu'il faut prendre la question de la crise du capitalisme avec cette hauteur et comprendre que c'est tout un monde qui est aujourd'hui en train de tanguer, c'est vers un nouveau monde que nous allons, et de ce point de vue-là, ce sont des modifications considérables qui sont en train de se jouer à l'échelle de l'histoire, et c'est à cette hauteur que nous reprenons la question. Alors, un premier élément, mes prédécesseurs n'ont pas abordé, mais qu'il faut quand même, sur lequel il faut quand même dire quelque chose, c'est que cette crise est aussi un accélérateur et un révélateur, et en même temps un accélérateur, d'un affaiblissement relatif de l'impérialisme américain. Le 5 août a été non pas déclenché, mais accéléré, la panique boursière, par la dégradation de la note souveraine américaine. On peut bien évidemment s'amuser, comme l'a fait Mélenchon et comme le font certains anti-libéraux, à expliquer les agences de notation à la niche. C'est pas très sérieux. Parce que c'est s'en prendre au thermomètre, alors que derrière tout ça, il y a une réalité que Isaac en particulier a longuement détaillée, qui est celle d'un endettement phénoménal de l'impérialisme US et qui ne peut pas durer indéfiniment. Alors je ne veux pas donner trop de chiffres, ce n'est pas mon propos et je ne suis pas le plus qualifié pour le dire, mais il faut quand même mesurer de quoi on parle. En 1980, la dette publique américaine, c'était 33%. 20 ans plus tard, c'était déjà 60%, elle avait doublé. Quelques années plus tard, les guerres de Bush ont été financées à crédit, il faut le rappeler, et on passe à 65%. Et aujourd'hui, le plafond des 100% a été dépassé. Alors, dans ce cadre-là, les bons du Trésor américain, qui sont le pivot sur lequel le havre, la valeur refuge sur laquelle fonctionne le système, qui peut croire que tout ceci sera remboursé rubis sur l'ongle, De moins en moins de gens. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, le message a été reçu 5 sur 5 à Pékin. Et c'est l'expression de tous les messages qui ont été envoyés par la bourgeoisie d'État chinoise, sa recherche de diversifier ses valeurs de placement, etc., etc. Et derrière, surtout, pour ce qui nous concerne, à nous, militants du socialisme, c'est surtout et avant tout une pression qui est faite sur le gouvernement américain pour qu'il résolve ses problèmes et pour les travailleurs américains, pour la population laborieuse de ce pays, où il y a déjà 14 millions de personnes qui ont été expulsées de leur logement, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux qui se prépare. Sauf qu'il y a un deuxième aspect qui est très important à tout ça, c'est que le marché américain est aujourd'hui celui qui tire la production mondiale. Et il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'alternative à ça. De ce point de vue-là, c'est tout un jeu extraordinairement vicieux qui est en train de se jouer. Et là encore, nous ne savons pas exactement quel va être l'impact de la dégradation de la note souveraine américaine. Mais le Figaro, par exemple, parle d'impact incalculable. D'autres commentateurs vous expliquent que avoir dégradé la note souveraine, c'était comme réduire le mètre étalon de 20 cm. Et nous verrons exactement ce que ça va donner. Mais ne croyons pas une seconde que ces phénomènes n'ont rien à voir avec ce qui nous concerne. Alors, camarades, j'en viens à la dette. La dette, de ce point de vue-là, est un des facteurs constitutifs de la crise à laquelle nous assistons. J'en ai donné quelques chiffres et on peut comprendre pourquoi. Il y a d'autres mécanismes qui sont nourris, nous les documenterons plus précisément de ce point de vue-là par écrit. Mais je pense qu'il faut être synthétique parce que pour mes camarades ici présents, pour ceux qui veulent convaincre leur milieu de travail, etc., il faut maintenant en venir au cœur de la question. Et le cœur de la question, il est double, de ce point de vue-là. Il est d'une part le fait qu'en 1979, à l'orée de l'effondrement du système impérialiste qui était alors en jeu, avec d'une part une combinaison, ce qu'on appelait la stagflation, c'est-à-dire la combinaison de l'inflation qui menaçait les acquis du capital financier d'une part, et de la stagnation économique, c'est-à-dire de la baisse des profits en dernière analyse, il a fallu organiser le tournant néolibéral, et ce tournant de proche en proche, je ne peux pas vous revenir ici dans les détails, mais par exemple, les phénomènes de titrisation de la dette publique sont des termes techniques, mais pour expliquer fondamentalement une chose, c'est que pour financer leurs dépenses, les États ont été de plus en plus obligés, mis dans un système où ils passaient par les conditions du capital financier et payaient et se finançaient à ces conditions. Ça, c'est le premier élément. Et de ce point de vue-là, oui, nous n'avons pas à payer cette crise, ces phénomènes-là. Le deuxième élément, et de ce point de vue-là, j'encourage les camarades à se documenter dans l'article, le bouquin de François Chesnais sur la dette illégitime, où il y a un article qui est extrêmement détaillé, et où nous voyons que la contre-révolution fiscale faite au service des riches et des possédants a eu des impacts considérables. Parce que d'une part, donc, on augmente l'endettement, d'autre part, on baisse les recettes, et à partir de là, tout le reste s'enchaîne, et on en arrive à une situation qui est là. Alors oui, camarades, nous pouvons, et il est extrêmement simple, fondamentalement, à partir du moment où les éléments factuels et synthétiques seront donnés, de convaincre nos proches et nos camarades de travail que oui, la dette est illégitime. Non, nous n'avons pas à la payer, pas un képec, ça n'est pas notre dette, c'est leur dette, et c'est à eux de la payer. Et alors, bon, je ne veux pas reprendre l'ensemble du débat sur ce qu'il faut dire, ce qu'il faudrait dire, etc., etc. Mais là encore, camarades, pourquoi parlons-nous de non-paiement de la dette et pourquoi insistons-nous sur le fait que non, nous ne pensons pas qu'il soit juste de parler d'outils pour faire un moratoire et pour examiner ce qui serait légitime et ce qui ne serait pas légitime. C'est que nous pensons pour notre part, et je voudrais de ce point de vue-là citer François Chesnais, qui pourtant dit des choses que je ne partage pas, mais il explique fort bien pourquoi l'enjeu c'est effectivement de se prononcer pour le non-paiement de la dette. Voici ce qu'il dit. En tant que mode d'ordre de mobilisation politique de masse, celui de l'annulation ou de la dénonciation des dettes a plus de chances d'être compris que celui de restructuration. Il énonce un clivage, il prépare un face-à-face. Je pense que c'est effectivement en ces termes que se pose la question, et c'est pour ça que je suis effectivement partisan du mode d'ordre de non-paiement de la dette, qui est celui que nos camarades de travail et nos camarades autour de nous peuvent appréhender de façon saisissable. Alors, camarades, tout ceci ne signifie pas, bien évidemment, qu'il s'agit de s'opposer à tout et à n'importe quoi. Par exemple, des initiatives du type tribunal de la dette pour le non-paiement de la dette, à partir du moment où les choses sont positionnées dans ce cadre, sont parfaitement discutables. Mais, encore une fois, je pense que l'essentiel, c'est effectivement que nous soyons, dans la période qui vient, fondamentalement la seule force à gauche qui soit sur le terrain du non-paiement de la dette et que nous permettions à chacun de comprendre quelle est notre utilité sur la scène politique sur ce terrain-là. Voilà ce que je voulais dire sur la question de la dette. Je crois que je n'ai pas fini. Alors, sur la question de l'Europe, bon, je n'avais pas écouté Norbert avant son exposé. Je pense qu'il a dit des choses fort importantes. Je pense que, il faut le rappeler, la question de la crise de l'Europe, de son recul relatif sur la scène mondiale, hein, si vous prenez sa place dans la production mondiale, enfin, si vous prenez quel que soit l'échelle, son recul relatif s'explique d'abord et avant tout par sa fragmentation. C'est-à-dire, ce ne sont pas des mots. Par exemple, prenons, moi je travaille dans le logiciel, un logiciel aux États-Unis est présenté sur un marché de 300 millions de personnes immédiatement. En Europe, je peux le traduire dans je ne sais combien de langues, y compris portugais et je ne sais pas quoi. ce qui a des coûts extraordinaires. Vous avez la multiplicité des législations qui existent encore, etc., etc. C'est quelque chose qui était déjà, de ce point de vue-là, analysé comme une des raisons de la crise de l'Europe par les fondateurs du communisme. Léon Trotsky lui-même y est revenu dans de longs détails pour expliquer que c'était bien cet élément-là qui était décisif dans la crise de l'Europe et qu'effectivement, toute la question était de dépasser cette fragmentation et cette division. Sauf que, et c'est là tout le problème et toute la crise de l'Europe, notamment durant tout le XXe siècle, je vous rappelle quand même que, par exemple, pour constituer la nation américaine, la bourgeoisie américaine a su se lancer dans une guerre, la guerre de sécession, qui n'a pas exactement été une partie de plaisir. Et de ce point de vue-là, les bourgeoisies d'Europe, et c'était le cadre théorique dans lequel nous nous situons, la politique communiste vis-à-vis de l'Europe se situait, considérait qu'il n'existait en Europe aucune bourgeoisie qui soit capable de prendre en charge la nécessité d'unifier l'Europe, c'est-à-dire de domestiquer les divisions qui existent entre les pays, les égoïsmes nationaux, les antagonismes de tous ordres, etc., etc. Alors la question est de savoir si ce pronostic politique qui était celui qui était fait dès le début du XXe siècle reste vrai, et je pense que c'est le cas. De ce point de vue-là, il faut revenir aux conditions du traité de Maastricht, par exemple, pour le voir. Maastricht n'a jamais été présenté comme un pas vers l'Europe unie. Ça, c'est pour les rêveurs. La réalité, c'est que la bourgeoisie allemande elle-même expliquait qu'il s'agissait d'une structure permettant, d'une série d'accords permettant la collaboration de ces diverses bourgeoisies entre elles dans un cadre intergouvernemental et qu'en aucun cas, et regardez la presse ces jours-ci, il ne s'agissait, de ce point de vue-là, de constituer une Europe fédérale qu'elle savait bien qu'elle était incapable de constituer. Et notamment, elle était bien incapable d'organiser la planification de la production économique de l'Europe à l'échelle du continent, et c'est pas pour rien, on peut pas y revenir dans les détails, mais dans ce qui s'est déroulé, par exemple, pour la Grèce ou pour l'Espagne, de ce point de vue-là. Je pense, de ce point de vue-là, que ça nous donne une image de ce qu'est la crise européenne fondamentalement, au-delà des éléments généraux de la crise, à savoir fondamentalement aussi l'expression de cette incapacité des bourgeoisies d'Europe à réaliser cette unité européenne, et c'est ce qui fondait le fait que nos vaillants prédécesseurs parlaient d'États-Unis socialistes d'Europe. Le fond de la question, c'était expliquer que les bourgeoisies d'Europe sont incapables d'unifier l'Europe et que c'est donc, de ce point de vue-là, quelque chose qui relève du programme social. Voilà, ça, je pense que c'est à peu près ce cadre-là. Et de ce point de vue-là, tout ce qu'on a vu dans le cadre de l'Union européenne doit être compris dans ce cadre-là. Norbert a parlé, donc ça m'évite d'y revenir un moment, de l'acte unique européen. L'acte unique européen, c'est le dumping social. Parce que le grand marché européen, c'est la mise en concurrence des travailleurs de tous les pays d'Europe. Ça ne peut pas être autrement, de ce point de vue-là. Et effectivement, c'est ces mécanismes-là qui pèsent extraordinairement, lourdement, de ce point de vue-là. Et ça indique bien que la question n'est pas de démocratiser une Union européenne ou je ne sais pas quoi, c'est toute une construction qui, de A à Z, se situe sur la base des intérêts du capital. Et encore une fois, il n'y a aucun chauvinisme dans le fait de le dire. Bien au contraire, oui, nous sommes des internationalistes, mais nous sommes aussi, de ce point de vue-là, attachés aux intérêts du monde du travail. Et les intérêts du monde du travail, c'est pas de laisser les classes ouvrières être mises en concurrence vis-à-vis des autres. Je pense qu'on comprendra qu'à partir de là, je suis un partisan acharné, je peux le dire, du mot d'ordre de rupture avec l'Union européenne, combiné à celui d'Europe des travailleurs. Là, le camarade a dit des choses sur la sortie de l'euro et sur les courants qui sont sur la sortie de l'euro avec lesquels je suis en accord total. Nous sommes des internationalistes et la façon dont il faut positionner les choses indique bien que nous devons avoir la différenciation la plus précise avec les courants chauvins. Et c'est assez simple, fondamentalement. C'est que tous ces courants, que ce soit les lambertistes, les résidus du PC ou je ne sais quoi, et leur sortie de l'euro, et ça fait quoi? Il s'agit de quoi? Il s'agit de nous dire qu'il y aurait une solution monétaire à la crise de l'Europe? qu'il pourrait y avoir une bonne politique, une bonne politique financière sur la base du simple territoire national de la France, c'est ridicule. Ça ne tient pas debout, ça n'est même pas réaliste. Et de ce point de vue-là, ça ne peut pas être comme ça que nous prenons les questions, même si, bien évidemment, la rupture avec l'Union européenne et la dénonciation, ça je vais revenir dessus, du traité de Maastricht, implique évidemment la sortie de l'euro, mais ça ne peut pas être posé comme un objectif en soi, me semble-t-il, pour les militants du socialisme. Alors j'en viens, le dernier point, puisque l'exposé est quand même sur la question de la politique vis-à-vis de la crise, je pense qu'il est aussi extraordinairement important de réaffirmer la validité des revendications ouvrières, parce que je pense que dans les mois qui viennent, l'ensemble des acquis, l'ensemble, Isaac a parlé du fordisme, et comment dire, de son démantèlement, etc. Le fordisme, c'est pas uniquement, bah, c'est tout ce qu'a dit Isaac, mais c'est aussi toute une série d'acquis qui ont structuré nos vies depuis des années, à commencer par la sécurité sociale, le droit à l'enseignement public, et on voit où on en est aujourd'hui, etc. Et on sait bien que c'est le début, etc. Je pense donc qu'il y a un certain nombre de revendications sur lesquelles il va falloir insister. Bon, la première, c'est bien évidemment la nationalisation du capital financier. Bon, quelque chose, moi, en préparant cet exposé, je regardais, Marx le revendiquait déjà dans le manifeste communiste. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, ça a une importance absolument décisive dans la situation qui va se poser. Je pense que, par ailleurs, il va bien falloir que nous soyons forcés, bon, je vais arrêter là parce que sinon j'irai trop loin, mais il va bien falloir être forcé de poser les problèmes en termes de choix de société. On ne peut pas aujourd'hui poser les problèmes uniquement en termes de revendications fût-elles importantes. Pour des millions de gens aujourd'hui, hier il y avait un camarade de Marseille qui expliquait bien, comment dire, il y a une claire conscience du fait que le capitalisme, ça ne marche pas. Et je pense que c'est sur ce sentiment profond qui existe aujourd'hui et qui ne va faire que se renforcer dans les prochains mois que nous devons construire notre activité, et notamment la campagne Boutou. Je crois que c'est possible. Je crois que ça se concrétise par la défense d'un certain nombre de revendications, et notamment la question de l'interdiction des licenciements ou, de celle, par exemple... C'est fini ? Non, je sais pas, etc. Et que je pense que dans ce cadre-là, il y a effectivement nécessité de mettre en accusation le capitalisme. Je crois que c'est possible, je crois que c'est nécessaire, je crois que c'est notre responsabilité. Merci.